VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Abidjan, 18h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par la RCA, le gouvernement. Le Parlement réclame des explications sur le retour inattendu du pays. Le retour inattendu au pays de l'ancien ministre délégué à la Défense nationale, Jean-Francis Bozizé, fils de l'ex-président François Bozizé, et aussi sur la fuite de Bangui de certains leaders des groupes armés du PK5 le 12 août dernier. Le bureau du Parlement centrafricain a entendu aujourd'hui à ce sujet 5 membres du gouvernement, notamment les ministres de la Défense nationale, de la Sécurité publique, des Affaires étrangères et de la Justice. Aurélien Simplizingas, premier vice-président de l'Assemblée nationale, explique les raisons de cette interpellation.
Nous avons réagi conformément aux dispositions du règlement intérieur régissant le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Nous avons jugé opportun par rapport au sujet d'actualité pour faire venir les membres du gouvernement afin qu'ils nous fournissent des informations pouvant nous permettre aussi, en tant que les élus de la nation, de mettre cela à la disposition de nos électeurs. Cette question-là concerne exclusivement l'arrivée inattendue à Bangui de l'ancien ministre de la Défense, Jean-Francis Bozizé, qui aujourd'hui fait couler tant d'encre et également les départs à l'intérieur du pays de l'ancien ministre Abdoulaye Hissène et ses partisans. Voilà, c'est sur cette question que le bureau de l'Assemblée nationale élargi aux commissions, nous avons eu à échanger avec les membres du gouvernement.
Aurélien Simplizingas, premier vice-président de l'Assemblée nationale de Centrafrique. En RDC, l'ONU a condamné aujourd'hui l'arrestation la veille de 32 personnes en marge de la journée ville morte décrétée par une frange de l'opposition congolaise. Ces arrestations ont eu lieu dans la capitale Kinshasa et à Mbujimayi dans le centre du pays, a déclaré José María Aranas, directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme en RDC. Selon M. Aranas, 11 personnes restent encore en détention à Mbujimayi, les autres ont été libérées. Campagne présidentielle au Gabon, nouvelle polémique dans les derniers jours de campagne électorale dans le pays. Le principal candidat d'opposition à la présidentielle, Jean Ping, a proposé un débat télévisé avec le président sortant, Ali Bongo Ondimba, lequel a refusé. Pour ce débat contradictoire, une pratique électorale encore rare en Afrique, l'ex-président de la Commission de l'Union africaine souhaitait la participation de journalistes choisis par les candidats et représentant la diversité de la presse et des médias. Pour sa part, le président Ali Bongo se dit prêt à participer au débat organisé par le Conseil national de la communication prévu ce soir avec des journalistes sur les antennes de radio-télévision du Gabon, mais Jean Ping n'y viendra pas. Toujours au Gabon, l'approche de l'élection présidentielle du 27 août sème un vent de panique chez beaucoup de salariés. C'est la fin du mois et beaucoup de Gabonais inquiets se demandent ce qui va se passer après la proclamation des résultats. C'est donc la ruée vers les banques pour percevoir son salaire. Un véritable parcours du combattant pour ceux qui sont à la Poste Banque de Libreville. Reportage de notre envoyé spécial à Libreville, Idriss Fall.
Lorsqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mieux vaut récupérer son salaire à temps. Tous les matins, il y a de longues files d'attente à la Poste Banque à Kébé et devant la maison mère dans le centre-ville.
Je suis M. Mombert Roger. Je perçois mon salaire à Poste Banque. Chaque fin du mois, on a des problèmes de ce genre, donc on n'arrive pas à percevoir les salaires dans les normes. Le salaire est bien reversé à part du trésor pour Poste Banque, mais ils ont du mal à payer les salariés.
Mais pourquoi ?
Je ne suis pas interne. Donc je ne peux pas vous dire les problèmes de Poste Banque. Je viens percevoir mon salaire en tant que salarié.
Vous faites la queue depuis combien de temps?
Je suis là depuis 6 heures.
Il est midi là.
Avant 16 heures, j'espère bien. Sinon, je vais repasser demain.
Demain, mais il y a les élections là, le 27.
Oui, mais justement, nous sommes là à cause des élections. On doit essayer de percevoir le salaire avant les élections.
Dans le quartier à Québec, un couple assis dans le rang fait même dans l'humour.
Mon époux n'aime pas quand je parle.
Monsieur l'époux, quels sont vos soucis ici qui fait que vous êtes assis ici depuis 6 heures du matin?
Je lui encaisse mon argent, je n'ai plus de soucis là où je suis. Je n'ai plus de soucis.
Vous avez déjà perçu votre salaire?
Je n'ai plus mon salaire.
Bien avant les autres, je n'ai plus.
Et madame, vous?
Elle est fâchée, elle n'a pas encore pris.
Elle n'a pas encore pris son argent, elle est fâchée.
Elle est fâchée, elle n'a pas encore pris son argent, elle est là depuis 5 heures.
Comme les élections arrivent à grands pas, percevoir un salaire dûment gagné est devenu un casse-tête pour beaucoup de fonctionnaires.
Je m'appelle Fred. Je suis fonctionnaire, l'État nous verse nos salaires, comme chaque fin du mois, normalement. Le problème, la banque est inefficace. La banque est vraiment endettée. Raison pour laquelle, au moment de payer nos salaires, il y a toujours des petits problèmes. Parfois, on repousse des jours. Parfois, on demande même de passer des semaines après.
Et on me dit aussi que si vous avez déposé 1 million là-bas, la banque ne vous permet plus de prendre votre argent comme vous le souhaitez.
Effectivement, du moment où on veut quitter la banque, mais il y a toujours des petits soucis. On ne peut pas vous les libérer. Il faut donner ceci, il faut donner cela. Si vous avez un compte d'épargne là-bas, vous ne pouvez pas tout récupérer intégralement. Sur 1 million, vous permettez de prendre 50 000, c'est inconcevable.
Même les militaires gabonais ne sont pas épargnés par cette galère.
Moi, c'est Monsieur Kotokoumi Wilfried. Je suis militaire, je suis lieutenant. En tout cas, ici, là, il y a plusieurs personnes et il y a beaucoup de gens qui changent même des comptes bancaires. Il y a les gens qui quittent de la poste pour repartir dans à BGFI et à d'autres banques parce que ça ne va pas ici. Ici, là, les choses se font dans la tribuninose. Quand on arrive, on est obligé de faire les rangs. Même les rangs arrivent jusqu'à la route. Donc, ce ne sera pas possible qu'on puisse toujours rester dans la même banque. Et les ajours ne se font pas dans la norme. Les ajours se coupent bien avant qu'après les 3 mois. Raison pour laquelle on quitte vraiment dans cette situation des banques-là.
Depuis Libreville, Idriss Fall, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Cour pénale internationale de La Haye, suite du procès de la destruction des mausolées dans le nord malien. Ce mercredi, le tribunal a annoncé son intention de prononcer le 27 septembre son jugement et la peine à l'encontre du djihadiste malien Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, jugé par la CPI pour avoir détruit des mausolées à Tombouctou. L'accusation a officiellement requis une peine allant de 9 à 11 ans de prison à l'encontre du djihadiste Bagassi Koura.
Selon Gilles Duterte, représentant de la procureure, cette peine reflète un équilibre juste et appréciable entre l'effet dissuasif qu'elle doit avoir et l'attitude de l'accusé. À l'ouverture du procès lundi, accusation et défense avaient annoncé qu'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi s'engageait à ne pas faire appel si la condamnation est équivalente à la peine requise. Cet accord ne lie pas les juges qui peuvent décider d'une peine allant jusqu'à 30 ans de détention. L'accusé avait plaidé coupable lundi de la destruction en juin et juillet 2012 de 9 des mausolées et la porte de la mosquée Sidi Yahya, monument classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Selon l'accusation, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi était le chef d'orchestre d'attaque visant à mettre fin aux prières et aux rites menés en ces lieux, contraire à la charia ou la loi islamique. La cour prononcera son jugement le 27 septembre.
Conflit en Syrie, les rebelles syriens soutenus par les forces turques ont annoncé avoir pris aujourd'hui la localité frontalière syrienne de Jarablus aux djihadistes du groupe État islamique à l'issue d'une offensive éclair de quelques heures. Un porte-parole rebelle a affirmé que les djihadistes s'étaient repliés en direction de la ville d'Al-Bab au sud-ouest de Jarablus. L'armée turque soutenue par les forces de la coalition internationale anti-djihadiste a lancé à l'aube sa plus grosse opération militaire en Syrie depuis le début du conflit il y a 5 ans, en voyant ses chars et ses avions de combat aider à chasser les I de Jarablus. Le vice-président américain Joe Biden est en Turquie, notamment pour chercher à réparer les dommages dans les relations américano-turques dues au coup d'État manqué dans le pays, et bien sûr parler de la Syrie. Les précisions de John Lyndon.
Joe Biden était attendu avec impatience par Ankara et est le plus haut responsable occidental à se rendre en Turquie depuis le coup d'État manqué du 15 juillet, dont la Turquie a accusé l'ex-imam Fethullah Gulen, en exil ici aux États-Unis depuis 1999, d'en être le cerveau. Ankara réclame à corps et à cri depuis le push manqué l'extradition du prédicateur à Washington qui a demandé un retour des preuves plutôt que des allégations et ne semble pas démesurément pressé de s'atteler à l'examen de ce dossier explosif. L'écrasante majorité des Turcs semble convaincue de la responsabilité de Gulen dans le putsch raté. L'ex-imam a, lui, formellement nié toute implication. La Syrie devrait également constituer un important volet des discussions de Joe Biden en Turquie. Sa visite intervient au moment où les forces armées turques ont lancé une opération en Syrie en coordination avec la coalition anti-djihadiste et donc avec le soutien américain.
Et pour terminer, en Italie, au moins 73 personnes tuées après un puissant séisme qui a frappé le centre du pays dans la nuit de mardi à mercredi. Ce bilan encore provisoire concerne en particulier 3 villages les plus touchés par ce tremblement de terre situés dans une région montagneuse au nord-est de Rome. Merci de votre attention.